bulletin que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Très grièvement blessée dans l'attentat de Charlie, une violence et une reconstruction qu'il a raconté dans son roman majeur « Le Lambeau », prix Femina 2018, Philippe Lançon est notre invité aujourd'hui. Chroniqueur du journal satirique, il revient sur les textes qu'il avait publiés jusqu'à ce terrible 7 janvier 2015. Un recueil qui paraît aux éditions Les Échappées, presque 5 ans après l'attaque, et qui s'intitule « Chronique de l'homme d'avant », dont exceptionnellement l'auteur de Maintenant a accepté de nous parler. Bonjour Philippe Lançon.
Bonjour.
Parmi les 500 chroniques que vous avez écrites environ pour le journal Charlie Hebdo entre 2003 et 2015, une soixantaine a été sélectionnée et rassemblée dans un recueil paru sous le titre « Chronique de l'homme d'avant ». C'est une publication qui permet de mettre en lumière ce très vieux genre littéraire, comme vous le rappelez dans votre préface, et qui, avec François Mauriac et son bloc-notes à partir de 1952, a montré que, je vous cite, « la chronique peut être un art, qu'elle n'a rien à envier aux autres formes littéraires, qu'elle est au cœur même de l'acte d'écrire », fermez les guillemets. Est-ce pour cela que vous êtes devenu chroniqueur, Philippe Lançon ?
Je ne le suis pas devenu pour cela, mais très probablement la nature de ce que j'écrivais et le rapport que j'avais à l'écriture lié à l'événement, puisque je suis journaliste, m'a progressivement conduit, entre autres, à exercer, enfin moi plutôt que art, pour moi je parlerais d'artisanat. Et du portrait, très naturellement, finalement, Libération m'avait proposé d'écrire la chronique à l'époque de la télévision, qui était très lue, c'était vraiment une autre époque, hein. C'est la fin des années 90, il y a 20 ans déjà. Et c'est de là qu'est partie finalement mon habitude de chroniquer, tout en continuant à faire d'une part des critiques et d'autre part des reportages. Et à un moment donné, naturellement, Philippe Val, qui dirigeait à l'époque Charlie Hebdo, m'a demandé, tout en continuant à travailler à Libération, de venir installer une chronique à Charlie. C'était en 2003, et quand je lui ai demandé ce qu'il voulait que je fasse, il m'a dit « tu essayes, t'es là pour faire ce que tu veux ». Ce qui était à la fois merveilleux et inquiétant.
Vous venez de l'évoquer, Philippe Lançon, d'abord pour le journal Libération et ensuite pour Charlie, vous êtes chroniqueur. Mais en quoi la différence éditoriale de ces deux titres avait-elle une influence sur les choix de vos sujets et sur votre écriture ?
Mais c'est-à-dire que à Libération, justement, il n'était finalement jamais question de ni ouvertement ni même, de manière déguisée, de parler de moi. Tandis que à Charlie, il y avait quelque chose de beaucoup plus ouvertement, une manière de prendre l'événement pour en faire quelque chose de beaucoup plus personnel, voyez. Et alors, avant 2015, ça restait tout de même, et c'est le cas dans ces chroniques, donc qui sont effectivement parfois qui commencent sur un fait d'actualité dont on s'aperçoit progressivement qu'il s'agit d'une fiction. C'est-à-dire que comme ça nous arrive tous, je voyais que j'étais témoin de quelque chose. Et puis, comme une rêverie, cette chose se transformait dans ma conscience et devenait un récit.
Par exemple, pour illustrer ce que vous venez de dire, Philippe Lançon, une scène dans un train où un homme téléphone et de façon si forte que ça devient obscène, ça c'est la réalité. Et donc vous imaginez qu'un autre personnage lui aussi parle tout fort et raconte un peu le manuscrit d'un livre pornographique.
Oui, ouais.
Et donc vous posez la question de qu'est-ce qui est le plus pornographique, raconter sa vie devant tout un wagon ou employer des mots un peu crus. Vous articulez réalité-fiction.
Il y a ça, donc ça permet, à mon avis, de divertir le lecteur, parce que je crois que c'est une chronique qui est assez drôle quand même, sarcastique, d'une part sur ce que vous dites, et d'autre part aussi au contrat que le lecteur passe avec un récit, puisqu'il commence dans une histoire qui lui est présentée comme une chose réelle, ce qui est vrai, et puis à un moment donné, cette chose réelle devient une chose fictive, Et ça aussi, petit à petit, il le découvre, c'est-à-dire qu'il n'est pas trompé.
Donc ici, dans Chronique de l'homme d'avant, une soixantaine de textes, je le disais, très éclectiques, de la disparition mystérieuse d'un lac au Chili, d'un banquier qui veut vendre sur le trottoir ses costumes, d'une actrice célèbre qui refuse de payer une journaliste engagée pour écrire une biographie, de femmes américaines qui parlent de Roman Polanski, ou encore de la sempiternelle cigarette que Jean-Paul Sartre avait à la bouche et que la censure a effacée, également de Philip Roth, mais aussi de jeunes gens qui bavardent sur un banc. Donc autant de scènes vécues, entendues, imaginez une feuille de température, dites-vous Philippe Lançon, des textes que vous n'avez donc pas choisis, des textes qui ont sans doute résisté au temps parce qu'il y avait une transgression dans l'écriture. Mais qu'est-ce que nous disent ces textes en particulier selon vous ?
D'une manière générale, donc comment ils ont été choisis ? Ils ont été choisis par l'éditrice des Échappées, qui est une jeune femme, Paloma Grossi. Et donc moi, évidemment, j'ai relu ces chroniques et j'ai décidé de l'ordre chronologique. J'ai décidé de mettre au début deux chroniques assez cruelles mais sur un lecteur de Charlie qui n'ose plus ouvrir Charlie sur certaines lignes de métro parce qu'il a peur de se faire agresser par des musulmans ou autres.
On va peut-être s'arrêter une seconde quand même sur le choix de cette chronique parce qu'en effet, vous venez de le dire, Philippe Lançon, elles sont publiées de façon chronologique à une exception près, les deux chroniques du début et cette première qui date en effet de février 2006, du mois où Charlie a publié les caricatures de Mahomet et qui décrit ce lecteur de Charlie qui a honte ou qui a peur, qui n'ose pas en tout cas sortir son exemplaire dans le métro. Et c'est un texte qu'on lit comme une nouvelle, du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous vouliez souligner d'abord en écrivant cette nouvelle et surtout en la plaçant au début du recueil ?
Alors d'abord c'était, même si c'est sarcastique, un hommage au lecteur, c'est-à-dire que la première chose, un journal vide ce lecteur. Donc le premier personnage qui apparaît effectivement sous la forme d'une fiction, d'un récit dans ce livre, c'est un lecteur et un lecteur de Charlie. Tout de suite finalement, je m'en suis aperçu en la relisant, le problème se pose à travers un récit. Que devient Charlie à partir du moment où il publie ses caricatures ? C'est-à-dire, dans quelle société a-t-il publié ses caricatures pour que un lecteur puisse avoir honte, ou d'abord peur et honte ensuite d'avoir peur, d'ouvrir ce journal sur une ligne de métro à Paris en 2006. Ce qui est bien dans le récit, la nouvelle, c'est qu'on n'a pas à tirer une morale de l'histoire. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup de choses, je crois, dans ce petit texte, sont en suspension. Et évidemment, je pouvais pas imaginer la conclusion que, malheureusement, enfin, une conclusion qu'on a vécue en 2015. Mais en fait, déjà, tout est armé dans ce qui va conduire à 2015. Tout est là, finalement, du destin de Charlie, sans que je l'ai évidemment imaginé, pensé. Je suis pas spécialement paranoïaque. Enfin, vous voyez. Et de toute façon, la nouvelle ne dit pas. Ne conduit pas à la violence. Mais la violence est là, partout, diffuse, et elle est dans cette menace qui fait que cet acte essentiel en démocratie, qui consiste à faire qu'on peut lire ce qu'on veut, où on veut, sans être agressé par les autres, eh ben cet acte, soudain, n'est plus possible.
Donc là, ça évoque effectivement la solitude du personnage, le manque de solidarité de son entourage, en tout cas, il ne compte pas là-dessus, qui va mener au massacre que l'on sait.
Oui, alors, évidemment, comme le texte ne dit pas ça, puisque je ne pouvais évidemment pas imaginer ce qui allait se passer, ni même d'ailleurs déjà le cocktail Molotov qui a fait incendier les locaux de Charlie en 2011. Vous voyez, tout ça, on ne peut jamais prévoir l'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est justement qu'un texte fictionnel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je pense que je suis parti à ce moment-là. Je dis je pense parce que je m'en souviens plus exactement, mais d'un passage dans un kiosque où le kiosquier m'a regardé de travers quand j'ai demandé Charlie. Et en fait, il m'a dit je l'ai pas. Et j'ai compris qu'il mentait.
Donc c'est là où vous avez déjà ressenti cette espèce de peur.
Oui, j'ai ressenti ça. Et moi-même, j'ai senti un jour, je pense que j'allais en reportage quelque part dans, je sais pas si c'est en banlieue nord ou sur une ligne du nord de Paris. Et là, je me suis dit est-ce que je cherche Charlie ? Je regardais les gens autour de moi. Je me suis dit, tiens, est-ce que je le sors ? Et à partir de là, c'est là que la fiction prend le relais. C'est-à-dire que d'une peur, d'un sentiment qu'on éprouve, dans une situation donnée, on fait une histoire dans laquelle rentre beaucoup plus accentuée cette folle du logis, quelle imagination, et donc avec elle, les peurs, les éventuellement la paranoïa, etc., etc. Sauf que ce dont on s'aperçoit, c'est que quand par hasard c'est bien fait, et ben ce qui se passe, c'est que cette fiction devient la réalité, au sens où elle l'annonce. Ce qu'un pur reportage n'aurait pas fait. Voilà. Et en fait, ce qui pourrait conduire à ce moment-là, celui qui a écrit, en l'occurrence moi, à l'orgueil, devrait le conduire plutôt à la modestie. Puisqu'en fait, je crois avoir conscience de ce que j'écris, cette histoire, et je n'ai absolument pas conscience de la portée qu'elle va prendre, pas si longtemps après. Donc voilà, à la fois je comprends ce qui se passe, et en même temps je ne le comprends pas.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain journaliste Philippe Lançon, avec qui nous parlons de la publication de ce recueil Chronique de l'homme d'avant, paru aux éditions Les Échappées. On l'a dit, 60 textes environ écrits jusqu'en 2015, avant l'attentat. Vous les avez relus pour la publication, évidemment, Philippe Lançon, vous deviez en avoir oublié certaines, probablement, puisque au total, il y en avait plus de 500. Qu'est-ce qui vous a frappé en les redécouvrant, sachant que vous dites que il vous semble que celui qui les a écrites est plus agressif et plus sarcastique?
Oui, je pense que cette agressivité, ce sarcasme, et ça ne vaut que pour moi, allait avec beaucoup plus d'insouciance. Même si, effectivement, à la relecture, je trouve, moi, qu'on voit des choses se mettre en place sur...
La société.
Oui, la société, son durcissement, des tendances de plus en plus fortes à restreindre les libertés, et en particulier la liberté de s'exprimer et de créer comme on l'entend. Le souci écologique...
Oui.
C'est même pas le souci.
Très présent.
Et très présent. Il y a une chronique sur la fin des avions, une autre sur la disparition d'un lac au Chili. Et là aussi, je n'avais pas plus de compétences que les autres, et même plutôt moins. Mais simplement, ce qu'on voit quand même, la chronique sur où j'imagine la fin des avions, elle date de 2005. Et une amie me disait d'ailleurs que quand elle l'avait lu à l'époque, elle s'en souvenait, elle avait trouvé quand même que j'exagérais, etc. En fait, non. Enfin, évidemment, les avions sont toujours là, mais on voit bien que maintenant, le problème se pose. Il va se poser de plus en plus. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Là aussi, c'était une chronique qui relevait de la fiction. Mais ce que, évidemment, sait tout romancier, c'est que là c'est des micro-fictions, mais la fiction... qui part toujours d'une réalité vécue ou ressentie, conduit à anticiper un certain nombre de choses, malgré soi, voyez, en suivant le fil du récit. C'est ça que j'ai découvert. D'autre part, il y a une chose qui a changé après 2015, c'est que dans ces chroniques, aussi personnelles soient-elles, et donc dans l'ordre de la fiction, le jeu n'y est pas, ou quasiment pas. À partir de 2015, Ma chronique a totalement changé dans la mesure où je suis devenu le sujet de ma propre expérience, du fait de l'attentat, de l'hôpital, de la reconstruction. Et j'en ai tenu mes lecteurs, j'ai tenu mes lecteurs au courant de ce que je vivais, ce que je voyais à l'hôpital pendant des mois et des mois et des mois. Et du coup, une fois que je suis sorti de l'hôpital, j'ai continué dans cette voie. Donc j'ai fait évoluer ma chronique, c'est-à-dire j'ai un peu plus accentué quelque chose qui était là en germe, qui est je ne parlerai de rien sans passer par mon expérience et sans dire au lecteur quelle est cette expérience au moment où je lui parle de ceci ou de cela.
Et paradoxalement, alors que vous étiez en effet peut-être plus agressif et plus sarcastique auparavant, vous dites qu'il y a moins de colère dans l'écriture, et vous posez la question, mais où est passée cette colère alors même que les raisons d'en éprouver se sont multipliées?
Oui, ben c'est un mystère. D'ailleurs, comme vous le lisez, il n'y a pas la réponse dans le texte, enfin dans la préface, parce que je n'ai pas la réponse. Mon intuition, qui est peut-être fausse, hein, c'est que souvent l'exercice de la colère qui se manifestait par des bons coups de trique contre un tel, ou contre effectivement beaucoup de sarcasme, allait de pair avec une certaine insouciance. Donc souvent, je dirais pas que cette colère était un peu gratuite, mais qu'elle était finalement exagérée par rapport à l'expérience vécue. À partir du moment où l'expérience est devenue aussi brutale et dure que celle de l'attentat et de la suite, j'en ai rabattu sur la colère, je pense. C'est-à-dire peut-être d'abord parce que j'ai moins d'énergie, et d'autre part...
Moins d'énergie à perdre? Pour les mauvais sujets, peut-être?
Oui, c'est vrai que je n'ai plus envie de m'énerver. Enfin, je veux dire, par exemple, je regarde quasiment plus la télévision. Donc je pense aussi que j'ai coupé les robinets, les sources d'agacement, parce que elles ne me permettaient plus de comprendre ni ce que je vivais, ni le monde dans lequel j'étais. Enfin, vous voyez. Et donc, j'ai essayé de me concentrer à la fois sur des choses qui nourrissaient ma propre expérience, et donc mes chroniques, et d'autre part, mais ça c'était visible dès l'hôpital, à exercer davantage de bienveillance. Ce qui veut pas dire, enfin, je veux dire, comment vous dire, le coup de patte est toujours là, et je le retiens souvent. Mais aussi, quand on écrit, retenir sa patte, c'est trouver une autre forme d'écriture, qui n'est pas du tout la bienveillance. J'ai souvent dit, c'est pas la naïveté, c'est pas être cucu ou nunuche, c'est pas du tout ça. En tout cas, moi, je n'entends pas dans ce sens-là. Il y a un aspect, et surtout, qui s'est beaucoup développé depuis, avec les réseaux sociaux, histrionique, que je trouve extrêmement déplaisant. Et j'essaie d'éviter ça. Ce qui me frappe dans ces perpétuelles manifestations d'indignation qu'il y a maintenant sur tout et sur n'importe quoi, c'est qu'en fait, tous ces gens, ce qu'ils crient, c'est à quel point eux sont des gens bien. Quand ils passent leur temps à dénoncer les méchants, les cons, etc., etc., en fait, ce qu'ils disent, le vrai message, c'est « moi, je suis quelqu'un de bien ». Et moi, comme chroniqueur, je suis pas quelqu'un de bien. Et je prétends pas dire à mes lecteurs que je suis quelqu'un de bien. J'essaie d'être au plus juste dans mon regard sur ce que je regarde et en disant ce que je suis à ce moment-là. Voilà.
Donc, ce que vous nous dites, Philippe Lançon, aussi, c'est que l'écriture d'aujourd'hui n'est plus l'écriture d'hier. Sans doute aussi parce que l'écriture vient du corps et que votre corps a été meurtri. Ça change des choses.
Oui, ça change des choses. Dans mon cas, c'est lié à la, probablement en partie, hein, mais c'est très difficile. C'est sans doute moi qui suis le moins à même d'en parler, mais à la lenteur de la reconstruction chirurgicale et qui continue aussi. Donc c'est très très lent. Donc c'est un long apprentissage de la patience, et très probablement ça m'a conduit à faire évoluer la matière de la phrase elle-même. C'est en quelque sorte détendu et a pris davantage son temps.
Mais est-ce que vous diriez aussi que la nature de vos chroniques aujourd'hui pour Charlie est différente, dans la mesure où vous dites aussi que l'attentat vous a rendu presque étranger à l'actualité qui n'est pas confrontée à votre expérience directe et intime, et que vous avez de moins en moins d'opinion sur ce qui a lieu, et que c'est à partir de cette absence d'opinion que vous écrivez?
Oui, parce que je pense qu'effectivement les opinions qu'on a les uns et les autres n'ont aucun intérêt pour les autres. En soi, non, elles n'ont aucun intérêt. C'est pas qu'elles soient vraies ou fausses. Simplement, elles sont sans intérêt. Ce qui est intéressant, c'est Soit on est un sachant, c'est-à-dire quelqu'un qui a une compétence réelle sur un domaine et qui vient l'exprimer sous forme analytique et informative. Soit ce qui reste à la majorité des mortels, et le chroniqueur de ce point de vue-là est un de ces mortels, c'est la confrontation de ce qui est observé et de ce qui est vécu, de ce qui est vu à sa propre expérience. En général, c'est là que la littérature, pour moi, est intéressante.
Mais aujourd'hui, quand vous dites que vous écrivez à partir d'une absence d'opinion, en même temps, il y a quelque temps, vous avez publié « Je n'accuse pas »,
oui,
ce texte très intéressant sur la question de savoir si il fallait ou pas aller voir le dernier film de Roman Polanski, compte tenu des nouvelles accusations d'agression sexuelle à son encontre. Là, ne serait-ce que par le titre qui est « Je n'accuse pas », en référence évidemment à la lettre ouverte de Zola pour Dreyfus, vous émettez une opinion ?
Je suis pas sûr que ce soit une opinion, en fait, parce que par exemple, je ne dis pas « il faut aller voir le film ».
C'est vrai.
Je dis « laissons libre chacun de faire ce qu'il veut ». Parce que ce qui est clair quand on voit le film, je l'ai vu. Je pense que ce n'est pas le cas de la plupart de ceux qui dénoncent Polanski, puisqu'ils prétendent que justement aller le voir, c'est soutenir le violeur. Donc ça, pour moi, ça, c'est vraiment pas possible. D'abord, il y a une règle qui est, je pense que tout écrivain et tout créateur, il faut vraiment séparer l'artiste de l'œuvre. Alors je sais que ce débat, et là ils sont là, ouais, ceux qui aiment pas ce débat, en fait, disent que c'est un faux débat. Non, c'est un vrai débat, parce que quand on a vécu ou fréquenté de près, ce qui a été mon cas, des dictatures, par exemple, communistes, où toujours la question morale se pose, en vérité. Moi, c'était à Cuba. On sait à quoi mène ce genre de raisonnement pour les créateurs. Ça finit toujours mal. Et il n'y a pas d'exception. Donc, il y a deux choses. D'une part, il y a ce qu'a fait Polanski. Et oui, il a été condamné aux États-Unis et il aurait dû faire sa peine. Le monde est imparfait. D'une part, il a négocié, d'autre part, il a fui. Mais moi, je ne suis pas juge et je ne suis pas flic. Donc, s'il avait fait de la prison, il aurait sans doute pas fait ses films, etc. Ce qui est compliqué, parce que Le Pianiste, si on prend un de ses plus grands films, c'est un film qui enrichit l'humanité. Et il se trouve, c'est compliqué la vie, qu'il a été fait, ce film, par un type qui a violé des jeunes filles.
Mais qui a aussi vécu le ghetto, qui a aussi
eu sa famille. C'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est-à-dire, parce qu'évidemment j'ai eu des réactions à cet article, où je rappelle quand même que sa mère a été assassinée enceinte à Auschwitz, lui ayant grandi dans le ghetto de Cracovie, que sa femme a été assassinée enceinte par Manson aux États-Unis. Ce type a vécu des choses atroces. Et ce n'est évidemment pas du tout pour justifier ce qu'il a fait. C'est-à-dire, on doit payer pour les actes qu'on commet. Mais moi, j'ai suivi des procès de viol et d'inceste, et en particulier dans mon jeune temps, comme reporter. On juge l'acte, mais il y a toujours un examen de la personnalité, de la vie de l'accusé. Et là, en tout cas, dans le champ médiatique, il n'y a plus cet examen. C'est-à-dire que c'est un faux procès. Parce que tout simplement, ce n'est pas l'endroit pour faire ce procès. Ce que je veux vous dire par là, c'est pour ça que j'ai été un peu long, c'est que c'est compliqué. Et que quand on est dans un monde où finalement, il n'y a plus qu'une position qui s'impose, qui en l'occurrence est celle de la victime, et j'en sais quelque chose, j'ai été victime, c'est un monde qui ne s'approche pas de la vérité. Voilà, et moi, comme victime, et je pense que mon livre précédent, Le Lambeau, j'ai bien pris soin de ne pas utiliser le statut que me donnait l'événement pour commencer à distribuer des jugements et des condamnations urbi et torbi. J'aurais pu le faire. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai pas. Parce que je considère que ce que j'ai vécu, par rapport à un événement extrêmement complexe et qui est aussi celui de l'islamisme, etc., ce n'est qu'une partie de l'histoire. Et cette partie, je l'ai racontée dans Le Lambeau. Voilà. Mais justement, je n'ai pas voulu faire déborder Le Lambeau de ce que je prétendais raconter, en devenant un donneur de leçons. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce qui était là, je l'applique aussi à Polanski. Et ce que je veux dire simplement par là, c'est que je n'ai pas à avoir d'opinion sur des choses sur lesquelles je n'ai aucune compétence.
Chronique de l'homme d'avant paraît donc assez près du 7 janvier 2020, qui marquera les 5 années de l'attentat. Est-ce que c'est aussi un livre qui veut rappeler qu'il ne faut pas oublier des faits qui ne sont peut-être pas toujours rappelés à leur juste mesure ?
Sur la question de l'oubli, bon, je pense qu'effectivement, l'an prochain, le procès va relancer, enfin, en tout cas, va remettre dans l'actualité l'histoire. Pour le reste, on est voué à l'oubli. Comme vous le savez, Charlie continue à être énormément menacé, et pas chaque semaine, mais quasiment attaqué très violemment par des gens qui, en gros, nous disent « Vous avez été victime et vous devriez vous tenir à carreau et arrêter de vous moquer des autres ». On voudrait que les victimes soient propres sur elles, en quelque sorte. Mais Charlie, c'est un journal satirique, il s'est toujours moqué de plein de choses, et de plein de gens, et d'institutions, et il continuera à le faire. Donc, si vous voulez, Charlie est une victime mal éduquée. Voilà, c'est comme ça, c'est dans l'essence de ce journal, et je pense qu'il continuera à l'être. Et donc tous ceux, effectivement, qui maintenant nous attaquent, ont hâte que toute cette histoire soit oubliée, pour pouvoir nous traiter le plus mal possible. Mais je les comprends, c'est humain.
Mais vous en souffrez de cet oubli ?
Non, je n'en souffre pas, parce que... D'abord, ça serait très malvenu, parce que le Lambeau a été un livre extrêmement bien accueilli par la société française, par les lecteurs. J'étais voilà, et encore maintenant, c'est-à-dire je reçois encore beaucoup de courriers et de manifestations de lecteurs qui indiquent à quel point ce livre précisément est entré dans leur propre vie, de lecteurs et de personnes. Je pense que dans cette mesure, ce livre que j'avais écrit pour moi, bien sûr, hein, a contribué à par la manière dont il était écrit, à ce que les gens n'oublient pas. Même si ce n'était pas le projet que je m'étais fixé.
En ce qui vous concerne, en effet, mais je parlais de la rédaction dans son collectif. Est-ce que vous avez l'impression que vous tous, vous souffrez de cet oubli ?
Oui et non. Je pense que, si vous voulez, c'est évidemment la rédaction. D'abord, il y a ceux qui étaient là le 7 janvier ou qui auraient pu être là. Et puis ceux qui sont arrivés après. Les nouveaux, entre guillemets, qui sont de moins en moins nouveaux, hein, ça fait quand même 4 ans, bientôt 5. Mais évidemment, c'est une ombre qui plane en permanence sur le journal, et en même temps, bien entendu, et c'est le travail de Rhys, hein, avec sa brutalité et son espèce de rigueur, là, son travail, c'est de faire échapper le journal à cette ombre. Donc, à la fois, cette histoire, on l'a vécue, et elle serait là, et elle sera toujours déterminante pour Charlie. Et en même temps, le travail du journal, c'est d'échapper à cette histoire pour continuer à vivre et pour évoluer. Et je pense que le journal, déjà, c'est un miracle qu'il soit encore debout, le journal, après ce qu'il a vécu. Vous voyez, ils ont quand même quasiment réussi leur coup, les tueurs. Mais ils n'ont pas réussi quand même. Donc, comme ils ne l'ont pas tout à fait réussi, en fait, ils l'ont raté. puisque leur idée, comme ils l'ont dit en sortant des locaux, c'était « on a tué Charlie ». Vous voyez, pas les hommes de Charlie, Charlie. Et non, ils n'ont pas tué Charlie. Charlie vivra avec ses souvenirs et ses contradictions et ses attaques. Et je pense encore pour longtemps.
Merci beaucoup Philippe Lançon.
Merci à vous.
Je rappelle donc que vous continuez d'écrire vos chroniques dans Charlie toutes les semaines et que vous êtes l'auteur de ce recueil intitulé « Chroniques de l'homme d'avant », un livre publié aux éditions Les Échappées. Et que Le Lambeau, prix Femina, donc l'an dernier, continue sa vie puisqu'il est traduit actuellement dans une dizaine de pays et que vous accompagnez ces traductions.
Voilà, je les accompagne autant que possible, hein, parce que je suis quand même assez fatigué. Et par ailleurs, il sort en poche en janvier. Donc il va commencer une autre vie avec d'autres lecteurs, j'espère. Et voilà, donc peut-être plus jeune aussi, parce que un livre ça coûte cher malgré tout. Et en poche, bah, ça coûte moins cher.
Merci encore.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.